Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. Et avant d'aller discuter avec Martin McGuire, le Canada a mérité deux autres médailles dans la deuxième journée de compétition des championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste aux Pays-Bas, incluant une autre médaille pour nul autre que le Québécois Charles Hamelin, qui a remporté la médaille d'or de l'épreuve du 1500 mètres ce matin. Il a complété l'épreuve en 2 minutes, 18 secondes et 143 millièmes. C'est la troisième fois qu'il est champion du monde après 2014 et 2018. Donc, une troisième fois en 2021. Il y a aussi le Québécois Maxime Louan qui s'est classé sixième en 2 minutes 19 secondes et 262 millièmes. Donc, bravo à l'équipe de patinage de vitesse, notamment le Charles Hamelin, qui on dirait qu'il est là depuis toujours, mais qui continue de faire la loi en patinage de vitesse, notamment là, au 1500 mètres. Voilà. On s'en va rejoindre Martin McGuire. Salut Martin.
Allô Jérémy.
Martin, on attendait tous des nouvelles et j'ai regardé un peu sur les médias sociaux, j'ai donné quelques informations, mais ça n'a pas l'air clair à 100%. Qu'est-ce que tu peux nous dire là? Je pense qu'on va commencer avec peut-être l'absence de certains et le retour d'autres joueurs. On peut s'attendre à quoi comme changement dans la formation ce soir?
Il est très fort probable que Josh Anderson soit là. Anderson a fait tout l'entraînement. Il a fait même les répétitions où on l'a installé sur un nouveau trio. On sait qu'Anderson a été blessé au bas du corps contre les Jets de Winnipeg, d'ailleurs, suite à un croc en jambe du défenseur de Merlo.
Oui, derrière le filet, oui.
Effectivement. Alors, il est vraiment en voie de faire un retour au jeu. Là, Arturi Lehkonen a fait du surtemps avec les joueurs, les réservistes de l'équipe, là, dont Charlie Lindgren, Frolic et Mété. Alors, on peut penser là, que si Anderson a le feu vert après la période d'échauffement ce soir, c'est vraisemblablement Lehkonen qui va être laissé de côté. Lehkonen, statistiquement, là, contre les Jets, là, jusqu'à maintenant, il est moins 4, Jérémy. Alors, je pense que ça explique un peu son retrait. Ça explique pourquoi on choisit Lehkonen pour faire une place à Anderson. Les changements de trio sont intéressants, Jérémy. On semble vouloir miser sur un Kotkaniemi qui joue un peu mieux depuis deux matchs. Là. Alors, il devrait être au centre de Toffoli à gauche et de Anderson à droite. Donc, on profite aussi du fait que Armia joue du bon hockey récemment. On va le placer avec Jonathan Drouin et Nick Suzuki. Ce trio-là, Jérémy, ça te sonne peut-être quelque chose. Si c'est le cas, c'est vrai. C'est un trio qui avait été formé l'année passée par Claude Julien. On a vu également brièvement ce trio-là en série de fin de saison. Je vais te faire entendre tout de suite Dominique Ducharme sur la réflexion derrière tout ça et un duo qu'on veut bien évidemment protéger. Voici l'entraîneur là-dessus.
C'est certain que quand tu as une combinaison qui a déjà fonctionné ensemble, tu sais, j'aime la chimie que Drouin et Suzuki ont ensemble. Comme j'ai dit en anglais tantôt, c'est... Ça se peut que vous voyez du mouvement à droite d'un match à l'autre, même à travers le match. Donc, ça pourrait être Armia qui est là. Des fois, tu sais, on pourrait avoir différentes combinaisons selon comment le match se déroule d'un match à l'autre. Donc, ça pourrait varier des fois.
Alors, ça pourrait varier. Ça pourrait être Josh Anderson également, Jérémy. Moi, je pense qu'on pourrait là, probablement jouer avec ça. On a essayé d'explorer un petit peu plus loin concernant la philosophie de Dominique Ducharme. Et tu sais, quand il dit que vous pourriez voir des affaires à droite, là, je pense qu'effectivement, c'est un entraîneur qui ne détesterait pas. Là, plus il va s'installer derrière le banc de cette équipe-là, parfois dans les matchs, là, déplacer des joueurs qui sont hot, les utiliser un petit peu plus, refaire certaines combinaisons. Il y a des entraîneurs qui aiment bien faire ça. Paul Maurice, d'ailleurs, en est un là, de ces entraîneurs-là. Il prend son top 9 là, puis il joue avec parfois. C'est pas tous les joueurs qui aiment ce genre de trucs-là, là, mais il y a une chose qui est sûre, Jérémy, c'est qu'à 5 contre 5, le Canadien doit être plus menaçant. Puis le retour de Anderson, potentiellement, là, pourrait les aider à être meilleurs offensivement à 5 contre 5.
Ben justement, il faut s'attendre à quoi de Anderson, étant donné que là, ça va faire quoi, c'est une dizaine de jours approximativement qu'il n'a pas disputé de match. Ce que je lisais sur les médias sociaux, c'est que vraiment, à l'entraînement aujourd'hui, il allait à fond de train.
Oui, oui.
Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un gars qui peut jouer normalement ou est-ce que lui, ça risque de prendre un match ou deux juste pour reprendre un peu son rythme?
Bien malin celui qui va prédire, mais moi je peux te dire une chose, lui là, il n'y a pas deux façons de jouer, il n'y en a rien qu'une.
Ouais.
Il s'en va en ligne droite, il fonce le plus vite qu'il peut, puis c'est un peu comme ça. D'ailleurs, je me souviens quand le Canadien a fait l'échange, des gens que j'ai contactés, là, qu'il connaissait bien, disaient, d'ailleurs, c'est un gars qui va, c'est un gars qui parfois devrait faire juste des petits compromis pour protéger son corps, pas des compromis de travail, là, d'intensité, mais juste des petits compromis pour mieux protéger son corps, et il ne le fait pas. Alors, tu sais, je pense que lui, là, il a juste une façon de jouer. C'est peut-être pour ça que l'entraîneur Ducharme prévoit peut-être jouer un peu, parce que si on s'aperçoit qu'il n'y a pas le tempo habituel parce qu'il n'a pas joué récemment, là, ben on pourrait peut-être faire quelques permutations. Puis, au contraire, ben écoute, s'il sort des blocs, comme il sort des blocs habituellement, là, lui et Brendan Gallagher, là, quand l'arbitre dit go, c'est, ouais. C'est deux gars qui partent à pleine vapeur. Puis honnêtement, Jérémy, le Canadien a besoin de ce type de joueur-là.
C'est sûr.
Anderson s'est rendu indispensable dès les premiers matchs qu'il a joué avec cette équipe-là, et surtout contre une équipe là, comme les Jets. Tu as besoin d'un gars qui va faire un peu reculer la défensive des Jets. La défensive des Jets, c'est pas leur force. Puis actuellement, je pense que le Canadien ne la teste pas assez.
Oui, définitivement. Puis surtout, c'est un gars qui va pouvoir donner un coup de pouce aussi si jamais on se rend en prolongation. Parce que c'est un sujet très chaud cette semaine. Là. Bon, on veut pas, c'est aucune victoire en 6 matchs lorsque le Canadien se rend au-delà là, du temps réglementaire. On a énormément de difficultés. On cherche des solutions. J'ai trouvé intéressant l'utilisation de Byron dans le dernier match. D'ailleurs, il s'est donné... une, même deux bonnes chances de marquer, de mettre...
C'est fait voler.
C'est ça, exactement. De mettre un terme à ce match-là. Moi, je pense que j'aimerais ça continuer de le revoir, mais un gars comme Anderson va aller gruger des minutes dans cette période de prolongation-là que présentement, on donne à des gars qu'on le sait que c'est pas idéal de les placer là.
Tu sais, Jérémy, moi, là, j'ai toujours pensé que la prolongation, le 3 contre 3, depuis que ça existe, là, des fois, il y a l'équipe la plus chanceuse des deux qui remporte le match.
Souvent.
Ouais. Des fois, il y a le gardien de but le plus hot des deux qui permet à son équipe d'avoir une chance. J'ai vu ça souvent, là. L'équipe qui gagne, elle a un lancé, une chance de marquer, et bang, puis à l'autre bout, son gardien de but en a stoppé 3-4 avant d'avoir la chance payante. Mais je vais te dire une affaire. C'est pas scientifique ce que je vais te dire, mais j'y vais avec ce que je vois, moi, quand je décris les matchs. Tu sais ce qu'on est capable de voir quand on décrit, tu le fais au soccer, oui. Tu suis le ballon, tu prends la température sur qui est confiant et qui ne l'est pas. Puis je vais te dire une chose, quand le Canadien a joué avec confiance depuis le début de ces 3 contre 3-là, là, quand l'équipe traversait de bonnes périodes, il y a des moments où ils étaient très confiants, puis que même des gars comme Ben Chiarot, qui sont pas des gars très offensifs, faisaient reculer les équipes adverses. Chiarot a donné quelques victoires. Tu as mentionné Byron. Byron aussi a donné quelques victoires à 3 contre 3. Mmh. Moi, je pense que ça se passe dans leur tête, Jérémy. Quand ils embarquent sur la glace, là, récemment, ils ont moins de succès, puis ça semble toujours les placer dans la dualité. OK, là, on défend. Non, on attaque. Là.
Ouais.
Tu sais, il y a ça. Puis je pense que ça se passe beaucoup entre les oreilles des joueurs du Canadien. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu Philippe Dano embarquer sur la glace là, pour des 3 contre 3, puis il a généré le but de la victoire. Tu sais, c'est pas lui qui l'a marqué, mais il l'a généré. Puis je répète, le meilleur exemple, c'est Ben Chiarot. Si ma mémoire est bonne, là, Ben Chiarot a donné déjà 3 victoires en prolongation aux Canadiens depuis qu'il est avec l'équipe.
L'année passée,
tu regardes l'alignement, sur qui tu mettrais ton petit 2$ là, vite de même, sur Ben Chiarot? Ben non. Mais j'ai toujours pensé que c'était une affaire de confiance.
Moi, je trouve que Ben, il se déplace bien pour un gars de sa grosseur,
oui.
Mais à 3 contre 3, ta marge de manœuvre est tellement mince. Si tu fais une erreur, t'es foutu. Donc, je serais porté à donner peut-être des chances à des gars peut-être un peu plus rapide, quitte à occasionnellement essayer quelque chose avec 3 attaquants. Je suis pas contre l'idée. Mais bon, regarde, présentement, ça ne fonctionne pas.
Confiance.
C'est ça, exactement. Mais,
confiance.
Ce qui est plate là-dedans, Martin, c'est que, tu sais, tu parlais tout à l'heure, il y a un petit peu de chance là-dedans. Normalement, à la fin d'une saison, ça finit par s'équivaloir. Tu vas en gagner à peu près la moitié de ces matchs-là. Là, tu sais, c'est bon an, mal an, c'est trois points qui malheureusement sont pas là au classement. Ben oui. Si t'en avais ramassé au moins la moitié, c'est ça.
Tu sais, à la fin de la saison, là, actuellement, là, le Canadien joue pour 591. Ça, c'est juste un petit peu plus que les Flames de Calgary. Mais là, les Flames de Calgary sont allés engager M. Daryl Sourire.
Monsieur Sourire. Je l'ai appelé de même hier, justement.
mais tu sais, Daryl Sutter, il va donner un électrochoc à cette équipe-là. Parce que c'est un vieux de la vieille, il comprend, il a connaît l'équipe, là, ça fait longtemps qu'il la regarde de haut, là. Puis je pense qu'il va savoir exactement sur quel bouton peser. Il a déjà gagné ce coach-là, là. Ouais. Tu sais, moi, je lui donnerais pas un contrat de 4 ans, mais tu sais, à court terme, là, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Alors, tu sais, le Canadien, là, la semaine prochaine, ils vont jouer à Vancouver, mais ils vont jouer à Calgary aussi. Alors, celle de ce soir, Jérémy, là, gagne-la en surtemps, gagne-la en première période, gagne-la avec un but chanceux, gagne-la 6-5 si tu veux, mais gagne-la.
Ouais, ben moi ce que j'aimerais ce soir, c'est une victoire, mais surtout une victoire avec une bonne performance. T'sais, en tout cas, je pense que ce serait de bon augure pour le voyage. Qu'est-ce qui se passe devant le filet pour ce soir?
Carey Price qui est là ce soir, là, il va prendre la place devant le filet. Les routines ont un peu changé là, avec Marco Marciano qui est là en remplacement de Sean Burke. Alors, on s'est demandé un petit moment là, si c'était pas Allen, mais non, c'est juste une question qu'on a un peu modifié les routines. C'est Carey Price qui va arrêter les rondelles ce soir. Je pense que c'était d'office de le ramener, là, d'autant plus que Allen avait perdu le dernier match. Là, ça va être intéressant de voir la semaine prochaine, l'équipe s'en va sur la route et tout ça. Ça va être intéressant de voir si, comme on dit, on va embarquer Price, là, puis s'il peut gagner ce soir, si on va l'envoyer dans le filet puis lui permettre d'aller chercher quelques départs consécutifs. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de Stephen Waite dans les derniers 72 heures à peu près, là, puis on découvre là, que le plan initial qui avait été approuvé par le directeur général, c'était de jouer un peu en alternance en février, puis que là, à partir du mois de mars, là, plus le mois de mars avançait, c'était de ramener Price sur des séquences de 3 matchs en 4 soirs. Mm. C'est-à-dire de 3 en 4 plutôt, là, comprenez-moi bien. Oui. Alors, j'ai hâte de voir si ça va être le plan qu'on va mettre en marche à compter de ce soir, mais ça, tu sais, un plan, Jérémy, ça marche quand tu réussis à avoir des petits W après les matchs. Ouais. Si t'as pas de petits W,
les plans
ton
changent.
Plan, t'es obligé de le changer.
Ouais. Ben, ça va être son premier départ depuis l'annonce du départ de Stephen Waite. Juste avoir ton opinion, je sais que t'en as parlé beaucoup cette semaine, mais quand même, quand j'ai réécouté le point de presse de Carey Price, c'est pas l'avant-dernière réponse, mais celle avant où il y a un journaliste anglophone, je crois, qui lui pose la question à savoir pourquoi ça ne fonctionnait plus entre lui et Stephen Waite. Et je m'attendais à ce qu'il prenne un petit peu plus, qu'il soit un petit peu plus imputable envers lui-même en disant, ben écoute, c'est pas nécessairement à cause de lui et tout ça, mais il m'a clairement indiqué dans sa réponse quand il dit, ben vous savez, après un bout de temps, des fois le message ne passe plus et tout ça, qu'il était d'accord avec la décision, même s'il est allé voir ensuite de ça Stephen Waite chez lui le lendemain et tout ça. Je suis certain que les deux hommes ont une bonne relation, mais même si Marc Bergevin dit qu'il n'a pas consulté Carey Price, j'ai comme le sentiment qu'il le savait que Carey sentait qu'il avait besoin de quelque chose de nouveau. Je sais pas ce que tu en penses.
Pour pas créer d'ambiguïté, là, quand Carey Price a fait le point de presse d'après-match, il le savait pas.
C'est ça.
Après le match, ça, c'est sûr. Quand il a fait le point de presse ensuite, Jérémy, moi, je pense que il ne voulait pas livrer ses émotions et ses états d'âme par rapport à la situation parce qu'il voulait pas se faire coincer. Ça, c'est ma lecture de la situation.
Coincé par un journaliste ou par une question, tu veux dire?
Coincé par une question ou livrer le fond de sa pensée qui pourrait donner interprétation à « je suis pas d'accord avec mon directeur général, j'ai pas du tout envie d'appuyer cette décision-là ». Tu vois le genre de choses, le genre de ce qu'on appelle le fameux « snowball effect », comme les autres disent. Là. Moi, je pense qu'il a donné des réponses courtes, il a donné des réponses positives concernant Sean Burke parce qu'il va avoir à travailler avec Jérémy. Mm-hmm. Et c'est le choix du grand patron. Alors, quand c'est le choix du grand patron, puis que, tu sais, c'est pas juste un entraîneur adjoint, là. Sean Burke, il va, dans le quotidien de Carey Price, matin, midi et soir, les journées de match, là, il va être avec lui, avec Jake Allen, mais avec lui. Et Carey Price a appris une chose dans les dernières années, Jérémy, malheureusement, là, je dis bien malheureusement, c'est quand il livre le fond de sa pensée, ça y revient toujours d'en face.
Mais sais-tu quoi, Martin? Le problème, c'est qu'il la livre jamais. Parce que
ben,
si
je viens de te répondre.
Si,
là.
Non, mais si tu la livres, je vais te donner un exemple. À l'époque où John Tortorella, à New York, il livrait toujours le fond de sa pensée. Au début, il faisait la une des journaux avec ça, parce que c'était des déclarations abracadabrantes. Mais à un moment donné, quand le gars, il parle de même à tous les jours, à un moment donné, ils ont arrêté de faire la une avec ça, parce qu'ils se sont dit, ben, il livre le fond de sa pensée tout le temps. Puis c'est, comprends-tu? Fait que quand tu dis jamais rien, puis là, tu dis, petite affaire, là, on est comme, hop, là, il y avait quelque chose, là.
Ben, je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit cette semaine, Jérémy. Ouais. Tu sais, Carey Price, là, c'est le gars le plus connu du Canadien, ouais. Quand tu sors un peu partout, là, à travers la Ligue, c'est le gars le plus connu. Et c'est le gars sur lequel j'ai entendu le plus de niaiseries au cours des dernières années. Parce que, justement, il se livre pas beaucoup, il s'ouvre pas, à part à des gens très près autour de lui. Ouais. Et là, ben, ça ouvre toutes sortes de spéculations, puis peut-être que quand il prend sa bouteille d'eau comme ça, il est pas content. Puis là, peut-être qu'il est content, peut-être qu'il est pas heureux. C'est sûr que c'est pas facile à lire un gars comme ça. Mmh. Mais je vais terminer avec un exemple. Il y a quelques années de ça, là, Il a envoyé une réflexion personnelle dans un point à la fin d'un point de presse qui est venu le hanter puis qu'on lui a remis sur le nez pendant des années.
Une phrase
anodine. À un moment donné, on lui a demandé, on dit « Est-ce que t'es bien à Montréal? »
Oui.
« Parce que là, c'est pas facile, tout le monde est après toi, tu te fais demander des autographes, tu te fais second-guesser, tu te fais achaler. » Et là, en riant, il a dit « Ouais, il dit, tu sais, je suis comme un hobbit, là, faudrait que je reste enfermé. Mais le reste de la phrase, ça a été, ben, ça vient avec le territoire.
Ouais.
Ça vient avec ma job, ça vient avec Montréal. Alors, ce qui est parti après ça, là, c'est, ben, moi, je suis comme un hobbit, puis je veux m'enfermer, puis je veux plus rien savoir, puis je suis malheureux. C'est ça qui est parti.
Mmh.
Alors que là, en réalité, ce qu'il a dit, là, c'est, je me sens parfois comme un hobbit parce qu'il faut que je me protège, mais j'ai compris que ça venait avec ma job et que ça venait avec le marché. Alors là, je viens de te donner un petit exemple, et si on avait le temps cet après-midi, je pourrais t'en donner 77
puis
comme
ça. Je suis sûr que Carey serait pas mal en accord avec ça. Martin, merci beaucoup.
Bonne journée.
Rendez-vous à 18h, c'est ça?
Certainement.
Exactement. Donc, 18h avec Danny Dubé pour l'avant-match Canadien-Jets. Ce soir, on se croise les doigts en espérant une bonne performance du tricolore. Merci beaucoup.
On devrait avoir un bon match. Bon après-midi.
Salut. Bye-bye. On fait une petite pause au retour de ceci. On va revenir à la boxe puisqu'on aura Yvon Michel avec nous qui va nous parler et qui va revenir un peu sur la défaite de Marie-Ève Dicker hier. Mais on va aussi nous parler de ce gala, ce premier gala historique pay-per-view de boxe féminine seulement et comment ça s'est passé pour lui avec toute son expérience va pouvoir vraiment nous donner son appréciation de cette belle soirée.